Bienvenue à vous tous, amis auditeurs, Nicole à ce micro. Je suis heureuse, bien évidemment, de vous retrouver pour poursuivre avec la sainteté au quotidien dans cette série « Vivre le carême avec la parole de Dieu ». Et nous avions, pendant toutes ces émissions précédentes, vu ensemble, entreaperçu plus exactement, la résonance de ce premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, tu l'aimeras. Et nous avons vu donc comment cela se déclinait à travers aussi le principe de l'adoration, du culte. On a vu donc aussi les vertus théologales, le sens du sacrifice, l'importance de ne pas tomber dans le péché d'idolâtrie qui est très fort dans toute l'Ancienne Alliance, dans tout l'Ancien Testament. On va lire toujours, et les prophètes, ce sera leur première mission, rappeler à Israël que Dieu est le seul Dieu, l'unique. Attention au piège de l'idolâtrie, au piège des tentations qui nous font tomber dans le péché, c'est-à-dire qui nous font nous séparer de Dieu. Dans le deuxième commandement, nous allons voir peut-être que c'est un commandement qui passe un petit peu inaperçu, et pourtant. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, en lisant dans l'Exode ou même dans le Deutéronome. Et dans l'Évangile, on peut reprendre, il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Alors, voyons déjà ce que nous en dit le catéchisme de l'Église catholique. Et puis, je vous ferai une petite surprise avec des commentaires que nous emprêterons au rabbin Marc-Alain Wachnin, vous verrez, avec toute la résonance aussi, la tradition juive. Tout d'abord, que nous faut-il entendre dans « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu à faux », que le nom du Seigneur est saint. Le deuxième commandement prescrit donc de respecter le nom du Seigneur. Il relève, comme le premier commandement, de la vertu de religion et règle plus particulièrement notre usage de la parole dans les choses saintes. Parmi toutes les paroles de la révélation, il en est une singulière qui est la révélation de son nom. Dieu confie son nom à ceux qui croient en lui. Il se révèle à eux dans son mystère personnel. Le don du nom appartient à l'ordre de la confidence et de l'intimité. Le nom du Seigneur est saint. C'est pourquoi l'homme ne peut en abuser. Il doit le garder en mémoire dans un silence d'adoration aimante. Lisons dans le prophète Zacharie. Il ne le fera intervenir dans ses propres paroles que pour le bénir, le louer et le glorifier. La déférence à l'égard de son nom exprime celle qui est due au mystère de Dieu lui-même et toute la réalité qu'il évoque. Le sens du sacré relève de la vertu de religion. À savoir que les sentiments de crainte et de sacré sont-ils finalement des sentiments chrétiens ou non? Eh bien, personne ne peut raisonnablement en douter, nous dit Newman. Ce sont les sentiments que nous aurions à un degré intense si nous avions la vision du Dieu souverain. Ce sont les sentiments que nous aurions si nous réalisions sa présence. Dans la mesure où nous croyons qu'il est présent, nous devons les avoir. Ne pas les avoir, c'est ne point réaliser, ne point croire qu'il est présent. Le fidèle doit témoigner du nom du Seigneur en confessant sa foi, sans céder à la peur. L'acte de la prédication et l'acte de la catéchèse doivent être pénétrés d'adoration et de respect pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième commandement donc interdit l'abus du nom de Dieu, c'est-à-dire tout usage inconvenant du nom de Dieu, de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et de tous les saints. Les promesses faites à autrui au nom de Dieu engagent l'honneur, la fidélité, la véracité et l'autorité divine. Donc elles doivent être respectées en justice. Leur être infidèle, c'est abuser du nom de Dieu et en quelque sorte faire de Dieu un menteur. Donc vous voyez, attention à notre langage. En nous rappelons aussi que dans le langage biblique, dans le langage de Dieu, le nom convoque toute la personne, évoque, convoque et invoque toute la personne. Ce n'est pas simplement le nom, c'est la personne même. Donc attention de ne pas utiliser ce nom de Dieu pour tout et n'importe quoi. Et surtout, on va le voir aussi dans la catégorie du blasphème. Le blasphème, en effet, va s'opposer vraiment directement à ce deuxième commandement, parce qu'il consiste en fait à proférer contre Dieu intérieurement ou extérieurement, attention, des paroles de haine, de reproche, de défi, à dire du mal de Dieu en quelque sorte, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu. Saint Jacques réprouve ceux qui blasphèment le beau nom de Jésus qui a été invoqué sur eux. L'interdiction du blasphème s'étend aux paroles contre l'Église du Christ, les saints et les choses sacrées. Il est encore blasphématoire de recourir au nom de Dieu pour couvrir des pratiques criminelles. Hein ? On ne peut pas lancer la guerre ou souhaiter du mal ou faire du mal au nom de Dieu, ou de réduire des peuples en servitude, de torturer, de mettre à mort. L'abus du nom de Dieu pour commettre un crime provoque le rejet de la religion. Le blasphème est contraire au respect dû à Dieu et à son saint nom, et il est en soi, écoutez bien, un péché grave. Les jurons qui font intervenir le nom de Dieu sans intention de blasphème sont un manque de respect envers le Seigneur. Le second commandement interdit aussi, bien sûr, l'usage magique du nom divin. C'est pour ça que dans des pratiques qui sont des pratiques para-religieuses, dirons-nous, hein, des pratiques de magie blanche pour enlever l'œil, pour etc., et où nous utilisons le nom des saints ou le nom de Dieu, c'est grave. C'est très grave. Nous ne pouvons pas utiliser le nom de Dieu pour un usage magique, quel qu'il soit. Le nom de Dieu est grand là où on le prononce avec le respect dû à sa grandeur et à sa majesté. Le nom de Dieu est saint là où on le nomme avec vénération et la crainte de l'offenser, c'est ce que dit saint Augustin. Donc attention à ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Nos frères d'ailleurs juifs ont pris d'une manière très consciencieuse ce commandement, puisque pour eux, ils ne prononcent pas le nom de Dieu, ils n'en sont pas dignes. Et puis prononcer le nom, c'est l'enfermer, comme si nous pouvions enfermer Dieu dans un nom. Dieu est au-delà de tout cela, un toit au-delà de tout, dit un très bel hymne. Bien, c'est tout à fait ça. Dieu, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le contenir. Donc dire son nom, ce serait comme le définir, et on ne peut pas complètement le définir. Donc nos frères juifs ne prononcent pas le nom, ils vont dire le Seigneur, Adonai, le Très-Haut, Elohim, etc., l'Éternel, mais ils ne prononceront pas le nom de Dieu, c'est-à-dire le Yod et Vav et, ce que nous disons Yahvé, qui est donc le tétagramme, le nom révélé à Moïse. Et même quand ils l'écrivent, quand ils vont écrire le tétagramme, ils mettront un tiret entre la première et la suite du mot, de manière à ne pas, voilà, à respecter ce nom qui est au-dessus de tout nom, comme le dit saint Paul, hein, le nom qui est au-dessus de tout nom et auquel tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre, ce nom qui est aussi bien sûr Jésus, ce beau nom de Jésus que la prière du cœur nous invite à répéter inlassablement, parce que Jésus, c'est-à-dire Yeshua, signifie Dieu sauve. Et oui, Dieu nous sauve. Donc voyez, vous savez maintenant que dans la parole de Dieu, les paroles qui sont prononcées par Dieu sont des paroles qui agissent. Elles se réalisent dès qu'on les dit. Donc prononcer le nom de Dieu, c'est invoquer sa présence, et on ne peut pas l'invoquer d'une manière qui n'est pas respectueuse ni blasphématoire. Donc vous avez bien saisi aussi la nuance. Restons toujours sur ce commandement et voyons aussi ce qui nous est dit, ce que nous dit toujours le catéchisme de l'Église catholique. Le nom du Seigneur prononcé à faux, proscrit donc le faux serment. Faire serment ou jurer, c'est prendre Dieu à témoin de ce que l'on affirme. C'est invoquer la véracité en gage de sa propre véracité. Donc le serment engage le nom du Seigneur. C'est ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras. C'est par son nom que tu jureras. Donc il vaut mieux ne pas jurer du tout, parce qu'il faut être bien sûr de pouvoir invoquer, prendre Dieu à témoin. La réprobation, du faux serment est un devoir envers Dieu, comme Créateur et Seigneur. Dieu est la règle de toute vérité. La parole humaine est en accord ou en opposition avec Dieu, qui est la vérité même. Lorsqu'il est véridique et légitime, le serment met en lumière le rapport de la parole humaine à la vérité de Dieu. Le faux serment, lui, appelle Dieu à témoigner d'un mensonge. Est parjure celui qui, sous serment, fait une promesse qu'il n'a pas l'intention de tenir ou qui, après avoir promis sous serment, ne s'y tient pas. Le parjure constitue un grave manque de respect envers le Seigneur de toute parole. S'engager par serment à faire une œuvre mauvaise est contraire à la sainteté, bien évidemment, du Saint-Nom, du nom divin. Jésus a exposé le deuxième commandement dans le serment sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres « Tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Voilà. Que tout votre langage soit « oui, oui, non, non », car ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Jésus donc nous enseigne que tout serment implique une référence à Dieu et que la présence de Dieu et de sa vérité doit être honorée en toute parole. La discrétion du recours à Dieu dans le langage va de pair avec l'attention respectueuse à sa présence, attestée ou bafouée en chacune de nos affirmations. Et à la suite de saint Paul, on va le trouver dans la deuxième lettre aux Corinthiens ou chez les Galates, saint Paul, dans la tradition de l'Église, a compris la parole de Jésus comme ne s'opposant pas au serment lorsqu'il est fait pour une cause grave et juste, par exemple devant le tribunal. Le serment, c'est-à-dire l'énonciation du nom divin témoin de la vérité, ne peut être porté qu'en vérité avec discernement et selon la justice. Et on connaît très bien la formule, justement au tribunal, où on fait mettre la main sur la Bible en disant « je jure toute la vérité, rien que la vérité ». Et voilà. Donc attention au parjure. Donc, c'est très grave. Et on n'est pas dans la légèreté, on dit « oh, mais c'est pas aussi grave que ça ». Si, si, c'est très grave. Parce qu'on est en train de mépriser ce que Dieu est. Voilà. Donc la sainteté du nom, elle exige de ne pas recourir à lui pour des choses futiles et de ne pas prêter serment dans des circonstances susceptibles de le faire interpréter comme une approbation du pouvoir qu'il exigerait injustement. Lorsque le serment est exigé par des autorités civiles illégitimes, il peut être refusé. Il doit l'être quand il est demandé à des fins contraires à la dignité des personnes ou à la communion de l'Église. Le nom chrétien. Le sacrement de baptême est conféré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le baptême, le nom du Seigneur sanctifie l'homme et le chrétien reçoit son nom dans l'Église. Ce peut être celui d'un saint, c'est-à-dire d'un disciple qui a vécu une vie de fidélité exemplaire à son Seigneur, et parce que aussi le patronage du saint offre un modèle de charité et assure de son intercession. Le nom de baptême peut encore exprimer un mystère chrétien ou une vertu chrétienne. Les parents, il y en a qui s'appellent par exemple Espérance, hein, ben voilà, c'est beau, c'est une vertu chrétienne. Hein, où on a beaucoup, en Corse par exemple, Assunte, Assomption, Marie-Assomption, ou je ne sais pas, voilà. Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne se soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien, pas de prénom étranger, et étranger au sens chrétien, c'est-à-dire que ce prénom est un sens qui ne sorte pas des nuages ou simplement de notre pure imagination. Le chrétien commence sa journée, ses prières, ses actions sous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le baptisé, voue la journée à la gloire de Dieu et fait appel à la grâce du Sauveur qui lui permet d'agir dans l'esprit comme enfant du Père. Le signe de la croix nous fortifie dans les tentations et dans les difficultés. Et c'est très beau de faire ce signe de la croix. C'est pas superstitieux. C'est pour nous rappeler à tout instant de la présence de Dieu avec nous. De la présence de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vous voyez, très souvent, lorsqu'on passe devant une église, parce qu'on sait que là se tient le Saint-Sacrement, nous faisons un signe de croix, bien évidemment, parce que c'est aussi un lieu où Dieu est présent dans l'assemblée de la communauté chrétienne paroissiale. Donc c'est beau de continuer ce geste. En passant devant un cimetière, on fait le signe de la croix, parce que là sont les restes, les reliques, donc, de ceux que nous avons aimés et qui ont partagé cette foi chrétienne. Donc, il est beau de les rappeler, de rappeler Dieu, voilà, et de nous rappeler en lui, un signe de communion, et de faire donc ce signe de la croix. Mais ce ne sont pas des choses banales ou inutiles. Tout a un sens, c'est pour nous rappeler. Je vais vous raconter un petit récit juif de l'importance, par exemple, du voile de la prière. Vous savez que nos frères juifs mettent le talit comme un voile de prière. Très souvent, donc avec les phylactères qui pendent aux quatre coins, qui représentent le monde, on prie pour toute l'humanité, les quatre nations, quatre angles cardinaux. Et il y a donc un petit récit juif qui de l'importance donc de la prière, pour dire la force de la prière et surtout les signes qui nous rappellent, comme nous avons peut-être le chapelet ou une croix autour du cou, ou le chapelet dans notre poche. Ce ne sont pas des signes inutiles ou futiles. Bien au contraire, cela va nous aider à nous rappeler, à faire mémoire de Dieu dans notre vie à un moment très précis et parfois un moment salutaire. Donc, exemple. Ce juif donc avait récité le schéma. Il avait gardé son voile de prière comme ils le font souvent. Sur son gilet et sous sa veste, donc bien entré dans son pantalon. Et il passe par une ruelle où là, c'est la ruelle de la tentation. Il y a des prostituées. Et finalement, il cède et rentre dans la maison d'une des prostituées. Et au moment où il commence à enlever sa veste, en mettant ses mains, il se rend compte qu'il a son voile de prière et il se rappelle « Shema Israël, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est l'unique, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. » Et donc il prend et il s'en va. Voyez donc de l'importance des fois de ces petits signes, même pour nous, hein, notre croix que nous touchons parce que ça nous rappelle à qui nous appartenons, à qui nous voulons suivre, hein, dans des moments peut-être de doute, de tentation, de colère, je ne sais pas. Et ou le chapelet hein, dans notre poche, de bien le sortir à tout, je dirais presque à tout bout de champ, lorsque le temps le permet. Et cela nous aide aussi à vivre notre journée toujours dans le regard de Dieu, sous le regard de Dieu. Donc Dieu appelle chacun par son nom. Le nom de tout homme est sacré. Le nom est l'icône de la personne. Il exige le respect en signe de la dignité de celui qui le porte. Le nom reçu, sachez-le, est un nom d'éternité. Dans le royaume, le caractère mystérieux unique de chaque personne marquée du nom de Dieu resplendira en pleine lumière. Au vainqueur, nous dit l'Apocalypse, je donnerai un caillou blanc portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, avec 144 milliers de gens portant inscrits sur leur front son nom et le nom de son Père. Le nom nouveau, eh bien, ce sera, je ne sais pas, par exemple, Jésus-Nicole. Voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout hein, quel peut être ce nom nouveau. Ce sera un nom, bien sûr, qui aussi nous caractérise. Sainte Élisabeth de la Trinité, merveilleuse Élisabeth de la Trinité, je vous invite à lire si vous ne connaissez pas encore, ou à relire si vous la connaissez. Elle signait d'ailleurs même ses méditations, ses lettres très souvent. Elle disait qu'elle voudrait s'appeler Laudem Gloriae, c'est-à-dire louange de gloire. Voilà ce qu'elle voudrait devenir au ciel. Et je suis sûre que c'est le nom qu'elle porte aujourd'hui, louange de gloire. Donc, en résumé, pour conclure aujourd'hui, « Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par tout l'univers, nous dit le psaume 8. » Le deuxième commandement donc prescrit de respecter le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est saint parce que le nom du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Le second commandement interdit tout usage inconvenant du nom de Dieu. Attention, le blasphème consiste à user du nom de Dieu, de Jésus, de la Vierge Marie, des saints, d'une façon injurieuse. Le faux serment appelle Dieu à témoigner d'un mensonge. Le parjure est un manquement grave envers le Seigneur, toujours fidèle à ses promesses. Ne jurez ni par le Créateur ni par la créature, si ce n'est avec vérité, nécessité et révérence, nous dit saint Ignace. Dans le baptême, le chrétien reçoit son nom dans l'Église. Les parents, les parrains, le curé veilleront à ce que lui soit donné un prénom chrétien. Le patronage d'un saint, ne l'oublions pas, offre un modèle de charité et assure sa prière. Le chrétien commence ses prières et ses actions par le signe de la croix et il le fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis bien sûr, rappelez-vous, Dieu appelle chacun de nous par son nom. Alors avant de passer au troisième commandement, je vous retrouverai pour notre prochaine émission avec effectivement cette invitation à considérer aussi ce commandement avec une exégèse, je dirais, ou en tout cas des commentaires juifs par le rabbin Marc-Alain Waknin. Merci à tous, bonne et sainte journée.